les eaux fleurissent. Rie, entre la vie est un délice. Rie, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lire. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio. Les éclats de lire. Pour mieux connaître la littérature jeunesse et ses acteurs. Quel enfant étiez-vous ?
Une enfant seule qui observait pour tenter de comprendre.
Quel livre pourriez-vous relire 100 fois ?
La belle lurette d'Henri Calais.
Quel livre vous a bouleversé ?
Sido de Colette.
Quel livre auriez-vous voulu écrire vous-même ?
Ne serait-ce qu'une nouvelle de Giono.
Parmi les autres êtres vivants, qu'auriez-vous aimé être ?
Un makikata.
Je suis
Anne Jonas.
Bonjour Anne Jonas, comment allez-vous ?
Bonjour, je ne sais pas d'où vous sortez ces archives, je ne me rappelle plus. Mais...
Ah, c'est pas votre voix, c'est pour ça.
D'accord.
C'est le portrait qu'on vous a demandé sur la fiche de renseignement pour avoir une petite idée de vous. Peut-être c'était il y a plusieurs mois, c'était il y a même peut-être un an. Est-ce que les réponses ont changé aujourd'hui ?
Ah non, pas du tout. Du coup, comme je ne pensais pas à moi, je me disais que c'était... quelqu'un qui me ressemblait drôlement quand même dans
ah
les
oui
choix.
C'est ma grande sœur. Anne Jonas, vous écrivez des livres pour les jeunes.
Oui.
Et dans ces livres-là, on se rend compte que vous manifestez un certain intérêt pour l'histoire, avec un grand
oui.
H. Est-ce que ça vient d'une première vocation, d'études que vous avez faites ?
Oui, alors bon, moi j'ai toujours été ce qu'on appelait littéraire. Mais quand il a fallu faire un choix après le bac, je voulais surtout pas faire des études de littérature. Parce que je trouvais que... Enfin, pour moi, ça s'apparentait un peu à de la dissection, voire de la vivisection, et que je détestais disserter sur les œuvres. Après, même les textes que j'aimais, j'avais l'impression qu'ils étaient morts après qu'on les avoir triturés dans tous les sens. Et du coup, j'ai fait le choix de faire des études d'histoire parce que je me suis dit que apprenant des choses sur l'histoire, ça allait plutôt enrichir ma compréhension de ce que je lisais. Voilà, que ça allait ouvrir des champs et ne pas entamer mon amour pour la littérature.
Ça vous aide à comprendre et c'est peut-être pour ça que dans vos albums, dans vos livres, vous portez attention aux détails de l'histoire pour aider également à comprendre, que vos lecteurs comprennent également.
Oui, l'histoire c'est souvent envisagé comme une matière fastidieuse, alors que je trouve que, bon moi j'ai eu de la chance aussi d'avoir des maîtres, enfin des profs assez extraordinaires, et au contraire c'est passionnant, on vous raconte une histoire, et souvent c'est la nôtre d'ailleurs. Et du coup je trouve que c'est... intéressant dans certains des livres que j'ai pu faire de distiller comme ça le pan historique en le rendant accessible sans en essayant de pas trahir bien sûr la complexité de l'histoire mais c'est une matière qui est quand même incroyablement attrayante. Enfin, c'est nos origines, c'est savoir comment se tricotent les choses, c'est quand même passionnant.
Et vous êtes donc autrice pour la jeunesse et vous écrivez des contes. En tant qu'autrice de contes, j'imagine que vous en lisez, que vous en connaissez beaucoup. Comment les contes et l'histoire peuvent se rejoindre ?
Alors, il y a une histoire avec un grand H et puis il y a les histoires avec un H minuscule. Mais pour moi, le conte, il est plutôt du côté du récit intime, du fond humain... qu'on partage tous aux quatre coins de la planète et depuis des temps immémoriaux. Et c'est ce qui me fascine, moi, dans le conte, c'est à quel point des contes très anciens peuvent encore nous parler aujourd'hui. Et alors après, l'histoire, c'est autre chose, là. C'est vraiment... on n'est plus dans l'imaginaire, on est dans des choses factuelles. il y a eu un point de rencontre dans les livres que j'ai pu écrire. C'est autour de l'histoire du golem.
Oui.
Où le conte...
C'est un livre que vous avez co-signé avec Régis Lejean.
Voilà. C'est un album qu'on a fait il y a déjà pas mal de temps avec Régis Lejean, qui avait fait de magnifiques illustrations. Et ce conte, pour moi, il était depuis très très longtemps un conte essentiel, et j'avais très envie de le faire en livre. Et du coup, Régis a été OK, puis on a trouvé un éditeur, ça a pu se faire. C'est parce que le golem... l'histoire du golem a un ancrage historique à Prague au XVIe siècle, et que c'est un conte à la lisière du possible. C'est vraiment très très le rapport à l'imaginaire est très ténu. Et d'ailleurs, c'est ce que je raconte souvent quand je parle de cette histoire, le golem, ce monstre qui a défendu le ghetto au XVIe siècle à Prague, a été, c'est ce que dit l'histoire, façonné par un rabbi, le Maharal, qui s'appelait le Rabbi Lo. Et moi, je suis allée sur la tombe du Rabbi de Lo. Et je me dis souvent qu'on va pas sur la tombe du petit chaperon rouge. Mais là, il y a vraiment un ancrage avec des personnages qui ont existé. Et pour moi, le golem, c'est un peu l'histoire des histoires. Parce que c'est... et ça rejoint Sherazade, qui raconte pour ne pas mourir. Et en fait, quand le ghetto de Prague s'est trouvé menacé de destruction, et qu'il n'avait rien, pas d'armes, absolument rien pour se défendre, il leur restait une chose pour se défendre, c'était une histoire. Et donc le bruit a couru que, et ça c'est un fait historique, le bruit a couru qu'un monstre comme ça défendait le ghetto, et ils se sont défendus avec une histoire.
D'accord.
Et comment est-ce que... c'est un peu l'histoire des histoires, quoi. C'est... quand on n'a plus rien, reste quand même la parole.
Et d'où cette envie de retraduire cette histoire dans un album pour les enfants ?
Oui, alors c'était pas un album quand même pour les tout petits.
Non.
Et bon,
c'est
y a
vrai,
plein
faut le préciser.
Il y a plein de d'auteurs, dont Isaac Schivisinger en particulier, qui se sont emparés du golem. Et il y a quelque chose de très particulier avec les adaptations qui ont été faites de cette histoire, c'est qu'à la fin, le golem doit disparaître, et que autant la trame, le reste de l'histoire, on est toujours, tous les adaptateurs sont un peu sur le même schéma, la raison pour laquelle il doit disparaître, chacun a un peu inventé la sienne. Voilà. Et il y a cette particularité aussi d'avoir ce champ de liberté à la fin de l'histoire.
Est-ce que vous pensez que la littérature jeunesse peut jouer un rôle aujourd'hui, et quel serait-il ?
Je pense que lire, c'est absolument essentiel, et que je dirais que encore plus aujourd'hui, où il y a tellement de sollicitations qui sont autres et qui sont pas forcément en plus bénéfiques, que les livres sont absolument essentiels. Moi, ce qui me frappe en ce moment, c'est à quel point on est devenu binaire, quoi. C'est oui, non, propre, sale, etc. L'autre jour, j'entendais l'auteur de théâtre Wajdi Mouad qui disait que son souhait, si on pouvait lui donner quelque chose, ce serait la nuance. Et que justement, quand on lit, on a accès à cette nuance, on a accès à la complexité des personnages, on a des situations, tout ça. Et que je trouve qu'on, par rapport à ça, on a, outre le plaisir, bien sûr, mais on a particulièrement besoin, et les enfants en particulier, pour se construire, de cet accès à la complexité et à la nuance.
C'est vrai. Merci beaucoup. Vous travaillez en ce moment sur un projet, vous m'avez dit hors antenne, qui se passe à Haïti, autour de l'histoire de la traite négrière.
Alors, là, en ce moment, moi, je suis un peu dans les prémices de ce projet. Et quand je travaille sur quelque chose d'un peu historique, je passe pas mal de temps à apprendre, à prendre des notes, à m'imprégner des choses. Parce que ce que je déteste dans les livres qui ont trait à l'histoire, c'est quand on a l'impression d'un copier-coller qu'on s'est dit, oulala, ça c'est important, faut absolument que je le mette là. Et alors du coup, on a cette impression comme ça un peu artificielle. Moi, je suis dans une phase qui sera plus ou moins longue parce que je suis plus ou moins lente, d'imprégnation de tout ça pour que ça devienne un paysage mental en fait. Et qu'après, j'organise mon histoire au milieu de tout ça. Mais effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur.
Il va donc s'agir... Ah, pardon.
Allez-y, allez-y.
Il va donc s'agir d'une histoire, d'un album, ou ce ne sera pas du document, parce que vous faites ça aussi.
Ça serait plutôt un roman pour ados.
D'accord. Vous alliez dire ce qui vous tenait à cœur dans cette...
Oui, ça me tient beaucoup à cœur, parce que c'est quand même... la traite négrière en France est un pan de notre histoire absolument énorme. Je veux dire, pendant deux siècles, la France a été la troisième puissance négrière mondiale. Et plus je lis et plus je mesure à quel point c'est aussi minoré quand même dans les manuels d'histoire, à quel point aussi, enfin, c'est peu pris en compte, et j'aimerais bien l'incarner dans un roman. Il y a quelque chose que j'ai lu récemment et qui m'a absolument fascinée, et je trouve que symboliquement c'est assez fort. Le palais de l'Élysée, dans lequel sont nos gouvernants, a été une résidence qui a été construite en 1720 par un monsieur qui s'appelait Louis-Henri de la Tour d'Auvergne. Et en fait, il l'a construit avec l'argent, la dot de sa très jeune épouse, puisqu'il a épousé une jeune femme qui avait 11 ans. Oh. Et le papa de cette jeune fille était le plus riche négrier de France. Donc le palais de l'Élysée, d'accord, lui-même vient, enfin voilà, est issu de cette fortune-là. Et je trouve ça symboliquement assez puissant quand même.
Totalement.
Et effectivement, par rapport à Haïti, c'est encore une autre chose qui m'a frappée, c'est que Haïti, suite à la révolution des esclaves, qui est d'ailleurs la seule révolution des esclaves qui a réussi dans l'histoire de l'humanité, donc en 1804, Haïti devient une république libre. Et en fait, en 1825, la France obtient un dédommagement pour les anciens maîtres esclavagistes. Et Haïti a payé sa dette pendant 127 ans, jusqu'en 1952.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose que je trouve proprement hallucinant.
C'est aberrant, ouais, effectivement.
Donc, on imagine à quel point cette dette qui était colossale, mais absolument colossale, a amputé le développement de ce pays.
Alors que la dette devrait être dans l'autre sens.
Alors que la dette devrait être largement dans l'autre sens.
Pour ce territoire qui a été pillé.
J'ai pas envie de faire une sorte de traité historique et j'en suis encore au moment où je balaye un peu le champ, j'essaye de m'imprégner de beaucoup de choses, et puis après charge à moi d'en bâtir une histoire.
Bien, merci beaucoup Anne Jonas, c'était vraiment passionnant de parler de ça. On fait une pause musicale et on reprend tout de suite après.
Merci.
1, 2, 3, 4.
Fait noir dans ma caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant ma vie, et les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y a toujours ma copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Quand je détraque et que je tique, que je suis patraque et pathétique. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire.
On a écouté la chanson Pierrot de Loïc Lantoine sur vos conseils, Anne Jonas.
Ah, j'adore Loïc Lantoine.
C'est très joli. En 2019, vous avez publié un ouvrage chez De la Martinière Jeunesse en compagnie d'Aurore Petit au dessin qui s'appelle Comment allez-vous ? Vous passez au peigne, je crois, 50 expressions populaires expliquées sous le prisme de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de relier des expressions familières comme ça avec leurs faits historiques ?
Alors, l'impression que je traque les histoires partout. Il y a aussi des histoires derrière nos expressions. Et ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'on a l'habitude de les manipuler, ben, moi la première, et sans forcément s'interroger sur leurs origines. Qu'on les parle, qu'on les dit comme ça, sans penser plus loin. Et puis c'est vrai, pourquoi s'interroger là-dessus aujourd'hui, hier, demain ? Et puis j'ai eu accès en fait à quelques origines comme ça d'expressions que j'ai trouvées tellement formidables que ça vous donne envie de téléphoner à quelqu'un pour le raconter immédiatement, quoi. Tellement c'est je trouve ça délicieux.
Et enfin, c'est vrai qu'il faut en apprendre, en lire une ou deux le matin et le ressortir comme ça dans la journée pour lancer une conversation, frimer un petit peu par notre nouvelle connaissance, etc.
Et moi, j'adore la connaissance à partager, en fait. Celle qu'on a envie de transmettre. Et du coup, voilà, ces histoires sur les expressions, c'est typiquement le genre de choses que je trouve qu'on a envie de raconter aux autres. Parce qu'on vient d'en apprendre une bien bonne, quoi.
Alors, par exemple, une au hasard que je prends dans la table des matières, que je n'ai même pas lu moi-même encore, un cordon bleu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on dit un cordon bleu ?
Alors, ça fait longtemps que j'ai écrit.
Et oui, c'était le piège, je ne vous ai pas prévenu. Allô ? Bon, c'était la question piège. Du coup, j'imagine qu'elle a raccroché en étant vexée. Est-ce qu'on m'entend, moi, au moins, à l'antenne ? Oui, on m'entend. Alors, un cordon bleu, je vais vous dire ce que c'est, chers auditeurs, et on en prendra une autre avec Anne Jonas. C'est un très bon cuisinier. Sous l'Ancien Régime, le cordon bleu était une très haute distinction. Celle des chevaliers du Saint-Esprit, sorte de légion d'honneur de l'époque. Et donc là, je vois qu'il y a toute l'équipe de Radio Escapade qui tente de recontacter Anne Jonas par téléphone, ce qui me donne l'occasion de meubler. Et je fais donc un laïus. Et je pense qu'Anne Jonas pourra nous expliquer, à son retour, ce que c'est que faire un laïus. Alors je disais que j'ai dû meubler comme je pouvais. Et j'ai donc fait un laïus, selon votre livre, page 62, un laïus, un discours long et ennuyeux.
un discours long et ennuyeux. Je crois que ça vient d'une dissertation qui avait été proposée et où tout le monde avait fait dans une grande école française et où tout le monde avait fait des textes absolument assommants. Je crois que ça vient de là. Et oui, on a été un peu coupés. Et moi, je disais qu'en fait, tout était parti tout simplement de le... C'est même pas une expression, c'est un mot. C'est quand on dit merde pour souhaiter bonne chance à quelqu'un.
Oui.
Je sais pas si vous connaissez l'origine.
Je sais pas. Est-ce que ça a rapport avec le titre du livre « Comment allez-vous » ?
Non, pas du tout.
Bon, alors non. Qu'on pourrait expliquer d'ailleurs.
Tout simplement. Alors avant, c'était quelque chose qu'on réservait aux gens de théâtre. Puis maintenant, on va dire merde à quelqu'un pour lui souhaiter bonne chance pour son bac, son permis de conduire ou autre chose. Donc on le dit à tout le monde. C'est tout simplement parce que avant, les gens qui allaient au théâtre étaient des gens plutôt fortunés. Ils y allaient en calèche. Et donc, si, ou en diligence, et donc, s'il y avait beaucoup de crottins devant la porte du théâtre, ça voulait dire que la salle était pleine.
Mais oui, bien sûr, je connaissais, j'avais oublié.
Et voilà, et j'avais trouvé ça tellement, tellement jubilatoire comme explication, qu'après, bah, j'ai tiré le fil, je suis allée en chercher plein, ou tout simplement, pourquoi on dit à vos souhaits à quelqu'un quand il éternue. Je vous jure que quand on le dit plus, sauf aux gens qu'on déteste, c'est simplement la peste commençait par des éternuements. Et donc, quand quelqu'un éternuait, on lui disait à vos souhaits, c'est-à-dire à vos derniers souhaits avant de mourir.
Oh.
Voilà.
Et donc, le titre de l'ouvrage, Comment allez-vous, fait référence...
Alors, Comment allez-vous, c'est effectivement...
Comment allez-vous à la selle.
Voilà, Comment allez-vous à la selle. Parce que c'était quelque chose au Moyen-Âge qui fascinait les gens, parce que la médecine n'avait pas accès à l'intérieur du corps. On n'avait pas le droit de faire de dissection. Donc, ce qui était passionnant, c'était ce qui sortait du corps. Donc, il y avait une grande attention par rapport aux selles, aux urines, etc. Et donc, c'était très important de demander aux gens comment ils étaient allés à la selle le matin.
On se souciait vraiment de leur santé en leur demandant ça.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on prenait vraiment des nouvelles de leur santé.
Oui. Est-ce que c'était quelque chose de facile de récolter toutes ces expressions ? Est-ce qu'il y en a que vous avez dû écarter ? Y a-t-il eu une sélection de fait ?
Il y a eu une sélection parce que quand les origines étaient trop douteuses, ou qu'il y avait trop d'interprétations vraiment très différentes, je préférais pas m'aventurer là-dedans. Il y en avait où il y avait quand même moins de choses à dire. Moi, je cherchais vraiment le plus possible, là où on pouvait raconter une histoire, parler d'un contexte historique, etc. Moi, une de mes préférées,
oui,
c'est faire quelque chose en 4 coups de cuillère à peau. Parce qu'en fait, c'est extraordinaire. Ça, c'est un glissement phonétique de la bienséance. Parce que à la base, cette expression... Alors, faire quelque chose en 4 cuillères à peau, ça veut dire facilement. On fait quelque chose facilement. Et en fait, c'est quand Henri IV a voulu annoncer à ses barons la naissance de son fils le lendemain de la naissance de ce fils. Lui, il n'était pas chez lui et il a voulu donc annoncer la naissance et il a dit « Il est né en 4 coups de cul, le cul C-U-L, hier à Pau, dans la ville de Pau. »
D'accord.
Pour dire que la naissance avait été facile. Et en fait, la bienséance a récupéré ça phonétiquement et c'est devenu 4 coups de cuillère à Pau.
Eh bien.
Je trouve ça assez extraordinaire.
Et donc, c'est « Comment allez-vous ? Les expressions populaires expliquées par l'histoire » que vous avez écrit, que Aurore Petit a illustré. Et on peut trouver ça chez La Martinière Jeunesse. Merci beaucoup, Anne Jonas, de nous avoir parlé de ce livre. Est-ce que, là, l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, simplement, j'avais fait, si les gens aiment, vos auditeurs, oui, auditrices aiment les expressions, j'avais fait 2 autres livres aussi avec à chaque fois 50 expressions. Il y a Nom de Zeus, toujours à La Martinière, qui est sur 50 expressions de la mythologie.
Oui.
Et Nom de Dieu, 50 expressions tirées de la Bible.
Ah oui, voilà, j'avais vu le dernier, mais pas Nom de Zeus.
Voilà. Et puis, eh ben, donc, je vais courir réviser mon cordon bleu, puisque et je suis à l'âge où on relit ses propres livres, donc c'est bien.
Je l'ai lu aux auditeurs pendant la petite coupure.
D'accord.
Donc, merci beaucoup, Anne-Jonas. Et donc, je rappelle que vous êtes invitée aux Éclats de lire qui ont lieu dans un mois, au Vigan,
oui. Oui.
17 avec et 18 mai. Ouais, avec toute l'équipe de Gaïa, donc on a déjà un petit peu parlé, beaucoup parlé même dans cette émission, et pour laquelle vous avez écrit une histoire d'ailleurs que j'aime beaucoup. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui.
Oui, la pirate.
Oui, donc rendez-vous au Vigan pour rencontrer Anne-Jonas et ses livres. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci. Au revoir.
Les éclats de lire, une émission de radio. Le troisième mercredi du mois à 15h30. Rediffusé le dimanche qui suit à 11h. Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan.